Mesdames et messieurs, à présent, nous vous proposons de suivre la conférence de presse hebdomadaire des Nations Unies avec Charles Bambara, porte-parole de la MONUSCO.
Merci, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonjour et bienvenue à cette conférence de presse des Nations Unies. Au sommaire de cette conférence de presse, le rapport mensuel du Bureau conjoint des Nations Unies pour les droits de l'homme, le HCR qui s'implique activement dans la préparation de la rentrée scolaire, notamment dans les camps de réfugiés. Ces informations vous seront développées et présentées par Joseph Potopoto au nom du groupe de communication des Nations Unies, qui partagera aussi avec vous d'autres informations humanitaires de développement en provenance donc du PNUD, de ONU-SIDA, de la FAO et de l'UNESCO. Le point militaire sera présenté depuis Goma par le commandant Jean-Marie Gonsalves, porte-parole militaire par intérim. Il sera entre autres question de l'activisme terroriste des ADF et des FDLR, notamment dans la province du Nord Kivu, et aussi du bilan partiel des opérations menées contre les FRPI en Ituri, en vue d'éradiquer donc la présence de ce groupe dans cette province. Voilà donc pour les titres de cette conférence de presse que nous ouvrons tout de suite avec ces informations en provenance de la division de l'information publique. Suite à l'interdiction du film « L'homme qui répare les femmes » de Thierry Michel et de Colette Brackman sur la vie et l'œuvre de Dr. Denis Mukwege, qui prend en charge les femmes violées à l'hôpital Panzi de Bukavu, le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies, donc en RDC, Martin Kobler, indique que cela est une atteinte inadmissible à la liberté d'expression, une liberté garantie par la Constitution congolaise et les lois internationales. Monsieur Kobler demande donc instamment aux autorités congolaises de revenir sur leur décision et donc de laisser les cinéphiles juger par eux-mêmes de la pertinence et des arguments développés dans ce film pour se faire une idée du drame vécu par des milliers de femmes congolaises violées dans la région. Et Martin Kobler d'affirmer que, de la même façon que nous dénonçons ces viols de ces femmes, de la même façon donc nous nous élevons contre toute tentative de censure qui pourrait empêcher l'effort de sensibilisation de la population contre les viols et autres formes de violence faites aux femmes. La journée internationale de l'alphabétisation 2015 a été célébrée hier avec pour thème alphabétisation et société durable. À cette occasion, Martin Kobler, le chef de la MONUSCO, a félicité dans un communiqué le gouvernement pour les efforts qui sont faits pour promouvoir l'alphabétisation, qui, en plus d'être un droit fondamental et qui doit être garanti à tous les Congolais donc, est un facteur de développement. Il a réaffirmé son engagement à soutenir les autorités gouvernementales, donc la RDC, pour mieux outiller les couches les plus défavorisées pour une participation active à un développement durable. L'UNESCO tout à l'heure reviendra plus en détail sur la tenue de cette journée internationale donc de l'alphabétisation. Par ailleurs, les sections de l'information publique et des affaires civiles de la MONUSCO à Kisangani ont organisé hier mardi 8 septembre une séance de sensibilisation sur le mandat de la MONUSCO à l'intention d'une centaine de leaders des associations des jeunes de Kisangani. Cette activité est tenue dans le cadre de la vulgarisation donc du mandat de la MONUSCO et pour expliquer aussi également le rôle dans l'organisation des prochaines échéances électorales de la MONUSCO dans la ville donc de Kisangani. Le but poursuivi au travers de cette rencontre était d'échanger avec les jeunes sur les activités de la MONUSCO dans la province orientale et les principaux aspects de son mandat de stabilisation. Parmi ces activités dans la province, l'on peut rappeler la tenue d'ateliers de sensibilisation et des séminaires de formation visant donc à renforcer les capacités professionnelles des journalistes, des acteurs judiciaires, des directeurs de prison, la réforme du secteur de sécurité ainsi que la réalisation de projets à impact rapide visant à améliorer les conditions de vie des populations locales. Section DD3R de la MONUSCO. La section DD3R de la MONUSCO a procédé hier, mardi 8 septembre, au rapatriement dans leur pays d'origine, le Rwanda, de 25 ex-combattants et dépendants des FDLR. Ces ex-combattants et dépendants ont été extraits par le DD3R des différentes localités donc du Nord Kivu. Ce rapatriement est le résultat d'une stratégie de sensibilisation ciblée dans les zones de refuge de ces combattants, notamment dans les camps de déplacés internes, où sont infiltrés des combattants FDLR et leurs dépendants. La section DD3R poursuit également ses activités de sensibilisation à travers des radios mobiles et de la technique de leaflet drop qui cible les zones de concentration de ce groupe armé. Il faut retenir qu'au-delà des camps de Kanyabayonga et Walungu, où les défis restent importants, la section DD3R de la MONUSCO renforce donc son effort de rapatriement des FDLR encore actifs dans les différentes régions de la RDC. Ces combattants et leurs dépendants ont été ainsi remis à la commission rwandaise de démobilisation en vue de leur réintégration dans la vie civile sur place. Police MONUSCO, lundi 7 septembre, le chef du bureau de la MONUSCO et l'administrateur du territoire de Gungu ont co-présidé la cérémonie de lancement d'une session de recyclage au profit des agents et cadres de la police nationale congolaise sur place dans la salle de l'audience du tribunal de paix de Gungu. Les différentes allocutions ont été axées sur les enjeux sécuritaires à l'occasion des prochaines élections, mais surtout sur les actions à prendre pour limiter les victimes de la violence électorale. Cette session donc portera sur le maintien et le rétablissement de l'ordre public, les gestes et techniques professionnelles d'intervention et les questions des droits de l'homme. 30 apprenants participent à cette formation donc à Dungu. Section maintenant droits de l'homme. Je rappelle que monsieur le directeur du bureau conjoint des droits de l'homme qui est présent parmi nous reviendra un peu plus en détail sur le bilan donc mensuel de la situation des droits de l'homme tout à l'heure. Mais avant d'arriver à lui, nous passons tout de suite la parole à Joseph Potopoto qui, au nom du groupe de communication donc, des Nations Unies, va nous faire le point de la situation des informations humanitaires de développement de cette semaine. Bonjour Joseph, c'est à vous.
Bonjour Charles, merci. Je reviens d'abord sur cette célébration de la Journée mondiale de l'alphabétisation pour indiquer que le rapport mondial de suivi 2015 de l'UNESCO sur la situation de l'éducation renseigne que l'alphabétisation des adultes n'a quasiment pas progressé depuis l'an 2000 dans le monde. C'est en dépit des progrès enregistrés dans certains pays. Dans son message à la communauté internationale, la directrice générale de l'UNESCO, Irina Bokova, a indiqué à ce sujet que 750 millions d'adultes sont encore dépourvus des compétences de base en matière de lecture et d'écriture, au nombre desquels on compte deux tiers de femmes. Le nombre d'enfants et d'adolescents non scolarisés est en augmentation. Ils sont maintenant à 124 millions à l'échelle mondiale et 250 millions d'enfants en âge d'être inscrits dans le primaire ne maîtrisent pas les notions élémentaires même lorsqu'ils sont scolarisés. Alors, en République démocratique du Congo, je crois que c'est ce qui vous intéresse le plus, le taux d'alphabétisme, d'après les chiffres officiels, oscille autour de 27%, ce qui représente plus de 18 millions d'analphabètes au sein de populations congolaises. Au cours de la célébration de cette journée, le mardi 8 septembre 2015 à Kinshasa, l'UNESCO, par la voix de son représentant en RDC, Abdulrahman Diallo, a renouvelé son engagement de poursuivre son appui à la RDC par un accompagnement technique et financier, notamment dans la formation continue, l'élaboration des documents importants à l'instar de la stratégie nationale de développement de l'alphabétisation et des programmes d'alphabétisation scolarisants. Cela devait permettre d'écrire une nouvelle page de l'histoire du développement en RDC, a dit M. Diallo. À l'issue de cette conférence de presse, le message de la directrice générale de l'UNESCO sera distribué aux journalistes. Deuxième information, c'est sur la formation des formateurs à Kinshasa sur les techniques d'élevage d'insectes. C'est une information de la FAO. 30 personnes provenant des organisations de producteurs de l'enseignement secondaire et universitaire, du ministère de l'Agriculture et de l'Environnement et des centres spécialisés reçoivent depuis ce mardi 8 septembre une formation de formateurs sur les techniques d'élevage d'insectes comestibles. Pendant 4 jours, les participants vont apprendre particulièrement les techniques d'élevage, le matériel nécessaire pour cet élevage, comment gérer l'environnement biophysique en dehors du milieu naturel, favorable à la production durable et à la croissance des larves, et comment maîtriser les ingrédients alimentaires locaux pour un élevage commercial et rentable. Il est attendu que ces 30 maîtres formateurs assurent la formation de 200 éleveurs professionnels afin de démarrer l'élevage des insectes comestibles dans la ville de Kinshasa et la province de Bandundu. C'est depuis avril dernier que la RDC, par l'entremise de son ministère de l'Environnement et du Développement Rural, a lancé à Kinshasa un projet pilote d'appui à la promotion de l'élevage des insectes comestibles et de l'entomophagie. ONU-SIDA annonce le lancement de la troisième édition du Forum national des mobilisations du monde du travail. Il se tient depuis ce mardi à Matadi. La troisième édition donc du Forum national des mobilisations du monde du travail contre le sida. Près de 200 délégués venus de Kinshasa et des provinces débattront sur le thème élimination de la transmission du VIH de la mère à l'enfant, contribution des entreprises. Organisé par la coalition inter-entreprises de lutte contre le sida, cette rencontre nationale vise à obtenir l'engagement des différents partenaires et principalement les entreprises locales et nationales à soutenir l'élimination de la transmission mère et enfant à travers des services innovants. Le forum bénéficie de l'appui du programme national multisectoriel de lutte contre le sida, de l'ONU sida, de l'OMS, de l'UNICEF, de UNFPA et du Bureau international du travail. Pour la ministre provinciale de la Santé du Congo central, Dr Thérèse Mambo, qui a ouvert le travaux, la tenue de ces assises renforce le partenariat public-privé dans le secteur de la riposte au VIH et au SIDA. Le directeur pays intérimaire de l'ONU SIDA, Juvenal Chimimina, a rassuré que l'élimination du VIH est possible avec la stratégie Fast Track, ou accélérer la cible 90-90-90, ce qui veut dire que d'ici 2020, Charles, 90% de personnes vivant avec le VIH connaissent leur statut sérologique, 90% de celles qui connaissent leur statut accèdent au traitement et 90% de personnes sous traitement n'aient plus de charge virale dans les sangs. Pour rappel, la première édition de ce forum s'était tenue à Kinshasa en 2009 et la deuxième édition en 2013 à Lubumbashi. Quatrième information nous vient du HCR qui a supervisé plusieurs activités la semaine dernière dans la province du Sud Kivu, principalement dans le site de réfugiés de Lusenda. D'abord une campagne de sensibilisation pour l'inscription des enfants réfugiés qui a permis à 718 enfants de pouvoir s'inscrire dans les 5 écoles environnantes du site de Lusenda. Le World Child Holland, donc une ONG, a procédé par la suite au lancement de travaux de réhabilitation dans le même site, de 3 salles de classe, et aussi avec l'appui d'une ONG, African Initiative for Relief and Development, et aussi à la fourniture de 209 pupitres sur 359 et de 34 tableaux noirs dans les salles de classe du site de Lusenda. Nous signalons aussi qu'une mission conjointe d'appui ACR, ministère provincial de l'éducation, s'était rendu à Uvira, Baraka et Lusenda. À cette occasion, le gouvernement provincial du Sud Kivu, par le biais de la ministre provinciale de l'éducation, a autorisé la construction des salles de classe en matériaux non durables, donc en bâche pour le moment, dans les 5 écoles ciblées et destinées aux enfants burundais en attendant la construction des salles de classe en matériaux durs. La mission conjointe a également sensibilisé les réfugiés sur l'importance et les avantages de l'intégration de leurs enfants dans le système scolaire congolais. Une amélioration du taux d'inscription des enfants inscrits dans les 5 écoles ciblées à Lusenda a été observée. De 121 enfants inscrits au 21 août 2015, le nombre d'inscrits est passé à 718 enfants en 2 jours de campagne de sensibilisation. Terminons enfin avec cette information du PNUD sur la mission conjointe des agences des Nations Unies au Nord Kivu pour le suivi du programme de lutte contre l'impunité, appui aux victimes de violences basées sur le genre et autonomisation de la femme à l'est de la RDC. Mission donc organisée dans le but de renforcer les caractères conjoints et holistiques du programme dénommé « Lutte contre l'impunité, appui aux victimes de violences basées sur le genre et autonomisation de la femme » à l'est de la RDC. On notera que cette mission de suivi, qui est organisée sous l'égide de ministères provinciaux du genre et de la justice par les agences des Nations Unies, à savoir le PNUD, l'UNFPA et les bureaux conjoints des Nations Unies aux droits de l'homme, s'est déroulée dans les territoires des Béni, dans le Nord Kivu, du 2 au 8 septembre. L'équipe qui s'est rendue sur terrain a exprimé sa satisfaction quant à l'effectivité de la mise en œuvre des activités. De la prise en charge médicale, psychosociale, à la réinsertion socio-économique, en passant par la prise en charge juridique, toute la chaîne d'appui est soutenue par ces programmes grâce à l'implication de partenaires locaux spécialisés dans ces différents services. La mission a constaté que 36 cas ont été référés de la clinique juridique à l'hôpital de Ouicha et aux associations qui s'occupent de la réinsertion socio-économique. Il existe aussi une bonne collaboration entre les acteurs de mise en œuvre du programme et les structures locales. 51 victimes assistées en justice, 106 survivants ont été appuyés en réinsertion socio-économique, 66 victimes dont 38 mineurs ont été prises en charge au niveau de l'hôpital de Ouicha et 144 à l'hôpital de Beni depuis le mois de janvier 2015. Pour rappel, le programme conjoint a été lancé en 2013 pour soutenir les efforts de lutte contre les violences sexuelles et basé sur les gens à l'est de la RDC. Il est financé par le ministère des Affaires étrangères, Commerce et Développement du Canada et exécuté conjointement par le PNUD, UNFPA, UNESCO et les bureaux conjoints des Nations Unies aux droits de l'homme sous l'élite du ministère du Genre pour une durée de 5 ans, donc 2013 à 2017. Voilà Charles, les informations pour les piliers équipés. Merci.
Merci à Joseph Potopoto pour ce tour d'horizon de l'actualité humanitaire et de développement ici à RDC. Je rappelle que Joseph Potopoto sera appuyé tout à l'heure par l'équipe pays qui est derrière nous et qui pourra donc prendre en compte l'ensemble de vos questions tout à l'heure dans la deuxième partie de cette conférence de presse. Nous allons tout de suite passer à Monsieur José Maria Aranaz, qui est le directeur du bureau conjoint des Nations Unies pour les droits de l'homme, qui publie dans le cadre de son mandat un rapport sur la surveillance étroite de la situation des droits de l'homme à travers le territoire congolais. Ces informations sont d'ailleurs régulièrement partagées avec les autorités congolaises afin qu'elles prennent des actions nécessaires, y compris de traduire en justice les auteurs des violations des droits de l'homme dans le pays. Au cours du mois écoulé, le mois d'août, le bureau a enregistré un total de 409 violations des droits de l'homme sur le territoire de la RDC, ce qui représente une hausse par rapport au mois de juillet 2015, au cours de laquelle seulement 393 violations avaient été enregistrées. Bonjour Monsieur José Maria Aranaz. Je crois que le micro est bon, vous pouvez continuer. Alors, quelles sont les grandes tendances de ce rapport de ce mois?
Merci beaucoup Charles, et merci beaucoup collègues de la presse. Comme tout vient à dire, les chiffres ont été déjà partagés et ils sont dans les sites d'internet. Le bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme a enregistré 409 violations des droits de l'homme dans les mois passés. Ça confirme une tendance à l'hausse des violations des droits de l'homme. C'est le deuxième mois consécutif que les chiffres de violations des droits de l'homme augmentaient. Et ça, c'est une question préoccupante. L'autre chose qui confirme, c'est que l'IEP de violations des droits de l'homme, c'est surtout la majorité des violations des droits de l'homme, ont pris à l'Est. Les provinces plus touchées sont les provinces orientales, Nord Kivu et Sud Kivu. Les agents de l'État seront responsables de la majorité des violations des droits de l'homme commises dans les mois passés, avec 216 violations des droits de l'homme et 330 victimes. Et il faut souligner qu'on a enregistré 20 cas d'exécution sommaire extrajudiciaire qui fait 20 victimes dans les périodes registrées. Par rapport des autorités impliquant violation des droits de l'homme, le FRDC serait responsable des nombres plus élevés de violations des droits de l'homme, avec 93 violations enregistrées qui représentent 22% du total, suivi par la PNC. Il faut aussi souligner qu'on a enregistré 24 violations des droits de l'homme qui ont un impact direct sur la crédibilité du processus électoral à l'avenir, et ça fait un total de 122 violations des libertés politiques et publiques depuis le début de l'année. Il faut aussi souligner que parmi les victimes de violations des droits de l'homme les mois passés, les groupes plus numéros, c'était les journalistes et les membres de la société civile. 8 victimes journalistes et 8 victimes de société civile, membres de société civile. On parle d'arrestations arbitraires, on parle de menaces, on parle d'agressions physiques. Dans les mois passés, il y avait au moins, on a documenté 19 militaires de l'FRDC et 10 agents de la police qui ont été condamnés pour les actes constituant des violations des droits de l'homme à travers du pays dans le cadre de la lutte contre l'impunité et les efforts des gouvernements pour éradiquer les violations des droits de l'homme. On a contribué à 15 activités de formation aux sensibilisations à travers du pays. Et notre programme de protection a donné l'appui à 12 cas de menaces et violations des droits de l'homme, surtout aux défenseurs des droits de l'homme, principalement à Nord Kivu et Sud Kivu. Des autres développements importants après les rapports, c'était le début, l'ouverture du procès du cas de Bosco Ntaganga, l'interdiction de manifestations publiques le 3 septembre à Kinshasa, aussi la découverte d'un site avec ossements humains dans une parcelle à Kamanyola, au territoire de Galungu, Sud Kivu, qui était en train d'être investigué par les procureurs provinciaux avec l'appui de notre bureau de Uvira, et le cas de censure des films de l'homme qui répare les femmes, qui en est déjà condamné par les représentants spéciaux et par notre bureau.
Voilà, merci à José Maria Aranaz pour donc la présentation succincte de ce rapport que vous aurez juste après la fin de cette conférence de presse en intégralité. Et donc, j'espère que d'ici là, dans la deuxième partie de cette conférence de presse, donc vous pourrez poser des questions qu'il se doit, que vous voulez, en tout cas, Monsieur José Maria. Direction tout de suite Goma, où nous allons rejoindre le commandant Jean-Marie Gonsalves. Commandant, bonjour, c'est à vous pour le rapport militaire de la semaine.
Bonjour Charles, bonjour à toutes, bonjour à tous. L'environnement sécuritaire dans les provinces situées dans la partie occidentale de la démocratie du Congo, y compris Kinshasa, a été stable durant la semaine écoulée. En province orientale, l'armée congolaise et la force de la MONUSCO fournissent des efforts pour sécuriser les populations civiles. En Ituri, les opérations initiées depuis le 3 juillet 2015 par l'armée gouvernementale soutenue par la force de la MONUSCO contre les éléments du FRPI ont engrangé des succès significatifs. Le FRPI a souffert d'un taux d'attrition de 40%, un nombre important de ses miliciens se sont rendus, des armes ont été récupérées et des enfants liés à cette force négative séparés. Au nord Kivu, la situation sécuritaire a été marquée dans le territoire de Beni par des meurtres des populations civiles commises par des présumés rebelles de l'Alliance des forces démocratiques, ADF. Les 4 et 6 septembre 2015, des éléments supposés appartenir à l'ADF ont mené des attaques dans la région de Ngité, située à 5 km à l'ouest de Mavivi, et tué à la machette 7 individus. L'activisme des rebelles réfractaires des FLDR a été rapporté la semaine écoulée dans les territoires de Rutshuru, Masisi, ainsi que dans les régions adjacentes de la ville de Goma. Au chapitre de reddition de la province, du 2 septembre 2015 à ce jour, 11 éléments provenant des groupes armés se sont rendus aux troupes de la force onusienne déployée dans la province. Il s'agit de 7 des forces démocratiques de libération de Rwanda FDR, 4 du groupe Mai Mai Raya Mutumboki faction Ngoa, au Katanga. Un calme relatif a été observé durant la semaine écoulée dans les localités affectées par les conflits interethniques entre les communautés Luba et Pygmy dans le territoire du Nguzu. Les unités des FARDC et de la force de la MONUSCO ont sous contrôle l'environnement sécuritaire dans cette province. Enfin, la force de la MONUSCO a amené